Géopolitique. Chantal Laureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Sa naissance il y a 20 ans a suscité beaucoup d'espoir, espoir d'une justice internationale, impartiale, qui poursuivrait les auteurs de génocides, de crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, fussent-ils militaires de haut rang ou chefs d'État. Seulement voilà, en 16 ans de travail effectif, la Cour pénale internationale n'a condamné que 3 seconds couteaux, un djihadiste malien et 2 miliciens congolais. Sur 11 enquêtes ouvertes, 10 visent des pays africains. Alors la CPI est-elle devenue un tribunal pour l'Afrique? Pourquoi les crimes en Irak, à Gaza ou en Afghanistan en restent-ils au stade d'examen préliminaire? A-t-on affaire à une justice à la carte? Et qui sont les maîtres du jeu? Comment expliquer la volte-face de la Cour dans le procès Bemba, acquitté en appel le 8 juin, après une condamnation à 18 ans de prison en première instance? Enquête bâclée, incompétence ou pression politique, la CPI est-elle aujourd'hui discréditée? Joue-t-elle son avenir dans le dossier afghan qui lui vaut des menaces de Washington? On en débat avec nos trois invités. Stéphanie Maupa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, basée à La Haye, où vous suivez les affaires de la CPI. En ligne avec nous de Cardiff, Sarah Dezalet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à la Cardiff School of Law and Politics de l'Université de Cardiff. Et à mes côtés également en studio, Juan Branco, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat, spécialiste en droit international et vous connaissez la CPI de l'intérieur puisque vous y avez travaillé pendant un an, d'abord comme stagiaire, puis assistant spécial de l'ex-procureur de la CPI, l'Argentin Luis Moreno Ocampo. Ma première question va être pour vous, Stéphanie Maupa. La CPI est-elle encore crédible aujourd'hui?
Elle fonctionne toujours, elle est là, elle existe, elle a perdu énormément de crédibilité et c'est assez surprenant parce qu'elle est née avec un crédit assez important et puis au fil des années elle a perdu beaucoup de crédibilité, mais elle est encore là, elle inquiète, donc elle a quand même un certain poids au minimum symbolique. Voilà, elle a encore cette crédibilité, il faut qu'elle se réforme, il faut que sa politique pénale évolue pour qu'elle peut-être regagne un peu plus de crédibilité et qu'elle remplisse son mandat.
Sarah Dezalet, est-ce que les Africains ont raison quand ils accusent la CPI de ne cibler ou presque que l'Afrique?
Il y a deux choses à voir là, parce qu'il semble effectivement que si les Africains retirent leur soutien à la Cour, c'est l'existence même de la Cour qui pourrait être en jeu, puisque le continent représente le groupe majoritaire d'États à l'Assemblée des États parties, avec 34 ratifications, et les États africains ont été eux-mêmes le pourvoyeur principal d'affaires à la Cour. Cependant, dans ce que les médias ont été prompts à qualifier de divorce entre la CPI et l'Afrique, il y a plusieurs mythes à déconstruire. Et il faudrait tout d'abord se départir de la guerre de position idéologique entre la Cour et l'Union africaine, entre une justice néocoloniale et l'invocation de l'universel, d'autre part. Si on s'arrête à ce clash idéologique, on s'empêche de voir ce qui se joue sur le continent. C'est aussi finalement une cascade de justice, pour employer le terme de la chercheuse en sciences politiques américaine Catherine Seekink. Il y a effectivement une fluidité de position et des enjeux. On peut penser par exemple au rôle pivot joué par Sidiki Kaba dans sa double casquette en tant que ministre sénégalais de la justice et de président de l'Assemblée des États parties à la CPI, à la fois pour négocier pour l'Union africaine les chambres spéciales qui ont jugé l'ex-dictateur Abré au Sénégal, tout en cherchant à apaiser la discorde entre les pays de l'Union africaine et la Cour. Et finalement, ce qu'il faudrait faire, c'est s'interroger sur les impensés à partir desquels la CPI s'est instituée, en particulier dans son rapport à l'Afrique. Et le premier impensé, c'est justement celui de marché symbolique, pour employer les termes de Bourdieu. La justice pénale internationale, c'est un marché qui repose sur la croyance dans la justice internationale, un peu comme le champ religieux, si vous voulez. Et cette croyance repose sur les liens entre marché de production de la justice pénale internationale et usagers de cette croyance. Et ce qu'il faut tenir en tête, c'est que la CPI ne constitue qu'un reflet partiel de ce marché. Or, ce marché symbolique est extraordinairement contesté. Il est fragmenté. Et la CPI constitue la dimension institutionnelle la plus proéminente de ce qu'on pourrait qualifier de sens commun réformateur diffus sur la criminalisation des violences d'État et armées, mais dans un espace où la judiciarisation de ces crimes reste remise en question, inégale et éclatée et fragmentée.
Juan Branco, votre point de vue. Justice de blanc, justice néocoloniale, ces reproches adressés à la CPI vous semblent-ils justifiés?
Il y a en effet une question qui est très liée aux usages sociologiques des différents acteurs de la justice pénale internationale. Alors moi, je suis extrêmement critique de cette institution, non pas parce que ce serait explicitement raciste, mais au contraire parce qu'il y a un certain nombre d'usages de la part des différents procureurs, juges, etc., qui leur amènent à considérer de façon inconsciente l'Afrique comme un terrain de jeu. C'est-à-dire comme comme un endroit où on peut s'entraîner. C'est explicitement ce que Luis Moreno Ocampo, le premier procureur de la Cour pénale internationale, avait comme idée en tête, c'est-à-dire s'assurer que très rapidement la Cour pénale internationale est une activité dans des pays où la souveraineté étatique serait faible et donc où il pourrait en fait s'y substituer et agir sans trop de contrepoids et donc en s'entraînant en quelque sorte sur tel ou tel milicien de seconde zone qui lui permettrait de créer des procédures à la haie. Et donc du coup de former ses équipes, de créer de la jurisprudence et de donner une apparence d'activité qui lui permettrait d'obtenir des financements de la part des États qui évidemment veulent des résultats très rapidement de façon relativement naturelle. Or le problème et l'impensé fondamental de cette Cour, c'est que cette Cour a besoin de souveraineté étatique pour agir parce que cette Cour n'a pas de force de l'ordre en propre, elle a des moyens relativement limités et donc elle a besoin de s'appuyer sur des relais qui contrôle le territoire, qui lui permettent d'interroger des témoins et de fonctionner sur le terrain. Or, ces relais sont relativement faibles là où elle a tenté d'agir, notamment en Ituri, enfin dans la première zone d'enquête sur laquelle elle est intervenue. Et ça crée les problèmes très connus sur les enquêtes de la Cour pénale internationale, notamment, où justement elle avait beaucoup de difficultés à aller chercher la vérité, elle utilisait des intermédiaires, toute une série de réseaux plus ou moins acceptables, et où surtout elle jouait le jeu des puissances sur le terrain, notamment des chefs d'État, en essayant de s'appuyer sur eux, en négociant en fait le fait de faire arrêter un opposant ou alors un de leurs alliés de seconde zone pour avoir leur appui. Bref, elle est rentrée dans un certain nombre de jeux très peu recommandables qui ont atteint sa crédibilité de façon extrêmement importante et qui ont remis en question sa capacité à faire justice dans le sens le plus profond du terme, c'est-à-dire à vraiment être juste, à pouvoir traiter des situations de façon égalitaire, etc. Quand la Côte d'Ivoire et un certain nombre d'autres situations se sont rajoutées dans lesquelles là, elle a été complètement incapable de ne serait-ce que respecter les apparences d'impartialité.
On va revenir tout à l'heure au procès Gbagbo.
Mais justement, la chose a commencé à se dégrader et lorsqu'en effet, à partir d'un certain nombre d'années, on a découvert que sur des situations qui symboliquement pourtant ont une importance capitale, comme l'Afghanistan, comme la Palestine, et qu'elle faisait volontairement obstruction à la mise en place d'une justice, et bien là, évidemment, la crédibilité s'est effondrée de l'institution pour toute une partie des populations. Or, à un moment, ces institutions sont censées créer du droit positif et pas seulement s'appuyer sur des rapports affectifs qui la rendent friable et vulnérable.
Stéphanie Maupas, sur le fonctionnement de la CPI. Donc, le texte a été ratifié par 123 des 193 pays liés au statut de Rome, c'est bien ça?
Oui, c'est bien.
Et alors, qui élit le procureur et les juges? D'abord, combien de juges à la CPI aujourd'hui?
Alors, il y a 18 juges qui sont élus par les États membres de la Cour. Et c'est pareil pour le procureur. Ce sont aussi les États qui élisent le procureur. Donc, tout ça, évidemment, pose des difficultés puisque les choix faits par les États répondent à des intérêts particuliers qui ne sont pas forcément les intérêts de la justice. Et pour ce qui est des deux premiers procureurs qui ont été élus, Luis Moreno Ocampo a été élu avec l'idée qu'on pourrait ramener les États-Unis dans la Cour, puisque les États-Unis, depuis la signature du traité en 1998, s'opposent à la Cour, donc ont à la fois essayé de miner les négociations et de faire inclure, et ça, ils ont parvenu, faire inclure certaines dispositions qui permettraient d'échapper à cette justice-là. Et puis ensuite, ils l'ont combattue. Est-ce que l'idée, à l'époque de l'élection du premier procureur, était d'essayer de rassurer les États-Unis en montrant, en fait, qu'il n'y avait pas de raison que des responsables américains puissent être ciblés? Donc, c'est sur ce critère-là politique que Luis Moreno Ocampo a été choisi. Et puis ensuite, vu les dégâts dans les relations entre la Cour et l'Union africaine, on a décidé d'élire Fatou Bensouda, qui avait quand même été pendant 8 ans l'adjointe de Luis Moreno Ocampo. Elle avait donc participé à la politique pénale, qui n'est quand même pas très concluante de Luis Moreno Ocampo. Et on a quand même décidé de l'élire parce qu'on a estimé que ça permettrait d'adoucir les relations entre la Cour et l'Union africaine. Donc voilà, les deux premiers procureurs élus, on l'a été sur des critères politiques et pas des critères de compétences. Et ça explique en partie la faiblesse des enquêtes et des poursuites qui sont lancées par la Cour.
Juan Branco, est-ce que les juges sont des magistrats ou est-ce qu'ils peuvent être de simples diplomates?
Non, les juges, et d'ailleurs je pense que ça a été montré dans l'affaire Bemba, sont capables d'une indépendance réelle par rapport aux États qui les ont élus. Il y a toute une série de critères qui permettent de l'assurer.
Ils ne sont pas redevables par rapport à l'État qui les a élus?
Assez peu, avec peut-être éventuellement des nuances qu'il faudrait établir par rapport à la présidence de la Cour pénale internationale, qui est très intégrée au jeu institutionnel, et notamment au rapport avec le procureur, de façon parfois complaisante, voire problématique. Mais autrement, sinon, le vrai cœur de la question, c'est en effet le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, qui lui dépend très directement à divers certain niveau de ses rapports avec les États et qui est prêt à beaucoup de compromissions pour s'assurer un minimum d'autonomie après par rapport à sa mission, ce qui est assez paradoxal et en même temps naturel, c'est-à-dire qu'elle dépend des moyens qui sont déployés par les États, elle dépend évidemment de l'élection par les États et de toute une série d'autres dispositifs qui vont rendre très difficile sa mission. Alors si en plus on choisit, et on l'a fait volontairement, des personnes qui sont promptes à cette compromission, comme les Fatou Bensouda, qui a été quand même choisie principalement parce qu'elle était un symbole africain. C'est-à-dire qu'il y a quand même une dimension très raciste, pour le coup, à son élection, qui visait à calmer l'apparence et la grogne qui montait contre la Cour pénale internationale, dont on considérait qu'elle ne s'attaquait qu'à des États africains, etc., à montrer, mais non, regardez, c'est une Africaine qui porte cette politique, donc... À partir de là, vous ne pouvez pas la critiquer pour le fait qu'elle s'attaque à l'Afrique. Là, on est quand même face à un problème très grave, parce que en plus, c'est pas subtil. C'est-à-dire que Fatou Bensouda, c'est quelqu'un qui a été compromis avec un régime dictatorial, ce qui en soi aurait dû la disqualifier, mais qui par ailleurs, surtout, est quelqu'un qui est intégré à une sorte de bourgeoisie cosmopolite. Elle a pris très vite des hautes fonctions au sein de son État, mais ensuite aussi au sein de toute une série d'institutions internationales qui font qu'elle est complètement intégrée à un monde qui porte un regard très unilatéral sur ces questions-là, dans lequel justement ne se glisse pas du tout de divergence du fait de ses origines.
Sarah Dezalet, on va revenir à la naissance de la CPI. En quoi cette Cour de justice est-elle différente du tribunal de Nuremberg, par exemple, et des tribunaux spéciaux pour l'ex-Yougoslavie, pour le Rwanda, pour la Sierra Leone, pour le Cambodge, etc.?
Je pense que Stéphanie et Juan ont soulevé deux points importants tout à l'heure sur lesquels il faudrait effectivement revenir. Le premier, c'est d'essayer de retourner vers la genèse de la Cour pour comprendre ce qui semble être une faiblesse structurelle de ce tribunal. Et pour revenir sur ce temps long, il faudrait revenir sur ce qui a permis l'éclosion de ce qu'on a appelé la résurgence de l'esprit de Nuremberg après la longue nuit de la justice pénale internationale pendant la guerre froide. Il y a eu en effet un alignement de plusieurs formes d'intérêts, à la fois transnationaux et nationaux, qui ont conduit au statut de Rome en 98. C'était à la fois la force d'un champ militant international des droits de l'homme, rassemblé autour de la coalition pour la CPI, avec le soutien de certains États du Nord, mais aussi le soutien extrêmement fort à l'époque des États africains, dans le Like-Minded Group, ou le groupe des États pilotes, durant les négociations du statut de Rome. C'est l'alignement de ces différents intérêts qui a donné l'impression qu'il y avait un consensus fort pour une justice pénale internationale permanente. Mais le consensus était déjà quelque part fragilisé par le caractère ambigu des tribunaux ad hoc pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie, que Samantha Power, l'ancienne ambassadrice du président Obama pour l'ONU, avait qualifié de « cheap solution », de « solution par défaut », quand la prévention et le militaire avaient échoué. On pensait d'ailleurs au départ que le tribunal pour l'ex-Yougoslavie allait échouer, puisqu'on privilégiait une sortie politique de la guerre par les accords de Dayton en 1995. Ce consensus, évidemment, a explosé avec le 11 septembre, et surtout la guerre contre la terreur. Évidemment, du fait de l'hostilité active des États-Unis durant les premières années de la Cour, qui empêchait toute possibilité d'enquête au Congo, par exemple, mais aussi avec la distanciation de plusieurs ONG, comme Médecins Sans Frontières, qui avaient pourtant joué un rôle très actif pour la création de la Cour. Ce qui est intéressant, quand on regarde dans la boîte noire, finalement, que constitue la Cour, c'est de voir comment ces contraintes se sont reflétées dans la structure même du tribunal et dans ses stratégies. Ocampo avait mis un énorme accent sur les rapports de la Cour avec la communauté diplomatique. Il y a une section qui est entièrement consacrée dans le bureau du procureur. Il a aussi voulu se distancer des polices nationales pour la fabrication de la preuve, évidemment avec des effets catastrophiques sur le terrain, mais en se fondant plutôt sur des réseaux d'ONG prépositionnés, soit en cooptant d'anciens membres d'ONG, soit en s'appuyant sur leurs données pour ne pas avoir aller sur le terrain. Mais on pourrait finalement presque dire, même si ça a des effets néfastes, que la Cour a fait de sa faiblesse une force. Ça veut dire qu'elle s'appuie totalement sur le caractère fragmenté et éclaté de la justice pénale internationale. Et en s'appuyant finalement sur des réseaux éclatés et souvent contradictoires, des réseaux et des logiques différentes qui participent aux interventions dans les pays du Sud et en particulier dans les pays africains. Il y a un deuxième point sur lequel je voulais revenir. C'est celui qui a été soulevé par Juan Branco sur le caractère racialisant, finalement, des rapports entre la CPI et l'Afrique, notamment reflété dans l'investiture de Fatou Bensouda au poste à la fonction de procureur. Il y a énormément de projections symboliques et idéologiques quand on pense à l'Afrique et à son rapport à la justice, et en particulier à son rapport à la justice, dans ce cas-là, d'instituer par la CPI. Sidiki Kaba, toujours, avait déclaré un jour que quand on pense à la justice en Afrique, on pense à une justice au rabais. Quand on pense justice en Afrique, on pense soit à la colonisation et à l'échec des grèves juridiques qu'elle portait avec elle, ou à la corruption des dirigeants africains. Mais quand on regarde encore, quand on décortique un petit peu, toujours, hein, la boîte noire de la CPI, en regardant d'où viennent les magistrats, on s'aperçoit que non seulement c'est la Cour qui compte le plus de juges africains de tous les tribunaux internationaux, c'est aussi celle qui compte le plus de juges femmes africaines. Il y en a eu 5 parmi les 8 juges africains qui ont été nommés depuis le début de la Cour. Et quand on regarde leurs caractéristiques sociales, leur trajectoire, on s'aperçoit que ces magistrats et ces juges africains ressemblent effectivement, à s'y méprendre, à n'importe quel autre juge d'autres tribunaux internationaux. Ce qui ne veut pas dire qu'ils se conforment à une vision, ou totalement, hein, à une vision de l'universel qui serait conforme à un idéal de l'Ouest, si j'ose dire, ou du Nord, mais ça veut dire aussi que les caractéristiques de ces juges sont tout à fait conformes à celles de la genèse des tribunaux internationaux. C'est-à-dire que ce sont des juges qui sont multipositionnés. En général, ils sont magistrats, mais ils sont aussi diplomates ou jurisconsultes. Ils sont aussi très souvent praticiens. Quelques-uns d'entre eux ou d'entre elles ont exercé des fonctions politiques. Et c'est cette multipositionnalité qui, depuis les tout débuts de la justice internationale au début du XXe siècle, a garanti des capacités pour la justice internationale d'avoir une crédibilité pour les États. En assurant la proximité, pardon, de ces juges avec le national et leur adhésion à l'universel.
Juan Branco, je vous ai vu sourire tout à l'heure quand vous écoutiez Sarah de Zalev. Vous n'étiez pas tout à fait d'accord ?
Non, c'était juste une remarque sur la question de cette multipositionnalité, comme vous la décrivez, qui pour moi, au contraire, est une grande source de problématiques au sein de la Cour pénale internationale, où on a des anciens fonctionnaires du bureau du procureur qui rentrent à l'Assemblée des États parties pour après devenir juge au sein de la Cour pénale internationale et qui se retrouvent en fait dans des positions de conflit d'intérêts assez clairs d'une part et de problèmes de position, en effet, et de façon générale, mais c'est pour moi le grand mal du droit international pénal, qui est un petit monde, c'est-à-dire que c'est quand même un nombre assez réduit de personnes qui n'arrêtent pas de faire des transitions, en effet, entre les États, les institutions judiciaires, mais aussi le monde universitaire, et qui, du coup, participent tous d'un destin commun et ont tous intérêt à servir cet ordre qui les finance, les nourrit, parfois, très souvent, avec des salaires très important, qui leur permettent d'avoir une vie, un niveau de vie qui est très difficile à atteindre dans d'autres domaines, qu'ils n'auraient pas atteint dans d'autres domaines.
Le salaire moyen d'un juge,
c'est Stéphanie 15 000 Mopa, euros,
18 000 euros
pour une quantité de travail très limitée, il faut aussi le dire, c'est-à-dire le nombre d'audiences qu'il y a, le nombre de jours d'audience qu'il y a en moyenne par juge à Cour pénale internationale est extrêmement faible. Et donc ça crée non pas une corruption active, mais quand même une sorte de compromission, en tout cas d'incitation à la compromission, à la recherche d'une forme de complaisance par rapport à ce que les ONG vont décrire comme des insuffisances ou un manque de célérité, alors qu'on est face à des situations qui parfois sont extrêmement graves. Et un dernier point là-dessus, on parle de droit pénal, c'est-à-dire qu'on tient le destin d'individus, leur liberté entre des mains. On ne peut pas se permettre la moindre complaisance par rapport aux échecs ou insuffisances de ces institutions. Les enjeux sont beaucoup trop lourds et l'affaire Katanga a montré que la CPI était capable d'aller très loin pour se couvrir et l'ensemble des agents qui participent du droit international pénal étaient capables d'aller très loin pour couvrir ce qui sont en fait des situations d'injustice terrible.
Affaire Katanga en deux mots.
L'affaire Katanga en deux mots, c'est un jeune milicien de 26 ans qui est nommé du jour au lendemain général à Kinshasa pour être envoyé à la haie pour tromper son monde par Kabila, pour donner l'impression qu'il envoie un allié important à la haie. Et on va mettre des années à découvrir qu'en fait cette personne n'avait pas participé à l'attaque dont il était soupçonné, qui n'avait pas du tout l'importance qu'on lui attribuait sur le terrain, et qu'en fait c'était juste une opération qui avait été montée avec le procureur pour donner l'impression d'une coopération à des États qui par ailleurs s'en fichaient complètement, alors que cette personne n'était pas responsable des crimes qui lui étaient attribués. Et le plus grave, c'est que pourtant il va être condamné à une peine qui va équivaloir au nombre d'années qu'il a passé à la haie pour couvrir l'institution en cas d'une décision de 700 pages qui est complètement aberrante et qui permet justement in fine de ne pas révéler justement les failles profondes de cette institution. Donc si ça arrive sur, on pourrait se dire mais bon finalement c'est pas très grave, c'est une personne, puis par ailleurs il a bien dû commettre des crimes, c'est ce que tout le monde s'est dit pendant ces processus qui a amené à cette injustice flagrante. Si ça arrive sur cette personne, les risques que ça se redéploie sur des affaires plus graves entre guillemets, plus importantes, sont extrêmement lourds. Oui.
On va se quitter le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à débattre du travail de la CPI, la Cour pénale.
Géopolitique. Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. Justice de blanc, institution néocoloniale, tribunal pour l'Afrique, justice à la carte. Voilà quelques-uns des reproches qui pleuvent sur la CPI, la Cour pénale internationale basée à La Haye. Ces reproches sont-ils justifiés? La CPI a-t-elle failli à sa mission fixée il y a 20 ans par le statut de Rome, à savoir juger les responsables de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité? On continue d'en débattre avec en ligne de Cardiff la chercheuse Sarah Dezalet et à mes côtés en studio la journaliste Stéphanie Maupa et l'avocat spécialiste en droit international, Juan Branco. Alors tout à l'heure, vous parliez des entraves mises par les États-Unis au fonctionnement de la CPI. Le Conseil de sécurité de l'ONU dispose d'un droit de veto sur les enquêtes. Est-ce que ce n'est pas ça l'un des nœuds du problème dans le fonctionnement de la CPI, Juan Branco?
Non, je pense pas. Je pense qu'il y a en fait des effets de censure et d'autocensure beaucoup plus importants au sein même du fonctionnement de l'institution qui expliquent ces défaillances. C'est-à-dire que l'intervention du Conseil de sécurité, finalement, est relativement exceptionnelle, que ce soit pour saisir la CPI, comme ça a été le cas en Libye, ou au contraire, pour essayer d'en empêcher les procédures. Ça fait partie du domaine de l'exceptionnel au sein de la Cour pénale internationale.
Alors, dans votre livre, Stéphanie Maupa, vous prenez l'exemple du procureur argentin Luis Moreno Ocampo, et vous dites que dans le dossier libyen, par exemple, il a fait beaucoup de zèle. Pouvez-vous nous résumer un petit peu comment ça s'est passé, le traitement de la Libye par la CPI?
Oui, c'est assez intéressant parce que le procureur est saisi très rapidement par le Conseil de sécurité, une dizaine de jours après le début des premières manifestations en Libye. Et habituellement, il prend énormément de temps. Là, trois jours après, il décide d'ouvrir une enquête. Trois mois plus tard, il a déjà des mandats d'arrêt. Il fait beaucoup de zèle. Il y a une instrumentalisation de la Cour pénale à ce moment-là. On prépare l'intervention militaire en Libye. On a besoin, ce sont les nouvelles politiques d'intervention, on a besoin de s'appuyer sur des institutions pour pouvoir légitimer en fait des interventions de ce type. Donc on pense à ce moment-là à la CPI. Et c'est pour ça qu'elle est saisie, en fait, pour participer à ça. Et puis, il y a un deuxième volet, c'est qu'on espère, et quand je dis on, ce sont les diplomates à New York, mais les États, on espère que la Cour va avoir un effet sur l'entourage du colonel Kadhafi et qu'il y aura un effet dissuasif et que son entourage va décider de ne pas s'allier aux crimes potentiels et va décider de déserter. Donc voilà, le procureur accepte, en fait, ce mandat qui est non-dit, accepte donc de participer à ce qu'il y ait des défections au sein du régime sous la menace potentielle de la Cour pénale internationale. Et on le voit tout au long de l'affaire libyenne, en fait, le procureur ne fait que ce qu'on lui demande. Il a accepté de se laisser instrumentaliser dans cette affaire.
Juan Branco, est-ce que le procès Gbagbo actuellement est un autre exemple d'instrumentalisation de la CPI?
Les procédures en Côte d'Ivoire en général montrent de façon assez claire d'une part la volonté et la capacité à se laisser instrumentaliser de cette institution. Il y a très clairement une intervention qui vient servir les intérêts de la France en Côte d'Ivoire, de la part de la Cour pénale internationale dans ce dossier, au point où ça a dû être Alassane Ouattara lui-même qui a essayé de limiter les procédures au sein de la CPI parce qu'elles étaient tellement orientées à l'encontre du clan Gbagbo.
Il faut rappeler que l'ex-président ivoirien et le leader des jeunes patriotes, Charles Bégodé, sont jugés pour crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Pendant cette crise post-électorale, des atrocités ont été commises dans les deux camps, dans le camp Gbagbo comme dans le camp Ouattara.
Et il faut bien séparer tout ce qui est la procédure judiciaire, c'est-à-dire une fois que les accusés ont été sélectionnés et qu'ils sont à La Haye, dont l'impartialité a priori n'est pas à remettre en cause. Par contre, en amont, sur la sélection des personnes qui sont envoyées à La Haye, il y a très clairement une orientation qui est tellement clair de la part du bureau du procureur, mais en même temps naturel non seulement de par les liens qui l'unissent aux grandes puissances, mais aussi par, encore une fois, son incapacité à enquêter de façon autonome sur cette situation et donc sa dépendance par rapport au pouvoir en place. Or, il se trouve que ce conflit électoral, du fait de l'intervention de la France, a été finalement gagné par Ouattara. Ouattara a le contrôle sur son territoire et ne peut permettre à la CPI d'enquêter sur place. La CPI, et le procureur en particulier, aurait pu dire, même si nous n'avons pas les moyens nécessairement immédiatement d'enquêter, nous décidons soit d'ouvrir une enquête que lorsque l'on pourra accuser de façon relativement égale et des personnes qui ont commis des crimes du côté du clan Ouattara et des personnes qui ont commis des crimes du côté Gbagbo, ou se retenir tout simplement d'émettre des accusations et de lancer des procédures tant qu'elles n'étaient pas en mesure d'agir impartialement. En décidant d'intervenir alors qu'elles ne pouvaient agir que sur un clan, évidemment, objectivement, elles se montrent dans l'incapacité de faire rejaillir la vérité sur ce qui s'est passé pendant cette période. Or, c'est un des rôles très importants que la justice doit jouer.
Stéphanie Maupas, vous suivez ce procès à La Haye. On a vu des choses quand même assez étonnantes, notamment du côté de l'accusation. On a montré par exemple des images tournées au Kenya et présentées par l'accusation comme tournées en Côte d'Ivoire.
Oui, effectivement, ça c'est une erreur dans les dossiers du procureur. Ce qui a été surprenant, c'est que ça a été par exemple dénoncé au début du procès. Le procureur a effectivement reconnu qu'il y avait une erreur sur cette vidéo et a quand même appelé le témoin qui lui avait fourni cette vidéo. Donc ça montre quand même une certaine incompétence sur les dossiers. Et puis ça surprend, quoi. Enfin, ça manque de sérieux, très très clairement. Après, il y a d'autres, sur le fond de ce dossier, il y a d'autres choses qui sont peut-être plus inquiétantes. Le fait que le procureur, pour essayer d'étayer sa thèse pour obtenir la condamnation, oublie une partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire et de ce conflit en particulier, oublie l'existence des rebelles, donc donne un certain nombre de moyens à la défense pour permettre d'avancer sur ce dossier. Sur cette affaire-là, il y avait aussi quelque chose qui, au départ, pouvait difficilement fonctionner, c'est-à-dire que la crise a été terrible, mais est-ce qu'on parle vraiment de crimes contre l'humanité dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas. Les crimes contre l'humanité, c'est quand même une politique d'État mise en œuvre qui cible délibérément des civils, et c'est le point principal sur lequel le procureur a des difficultés aujourd'hui. Est-ce qu'on n'assistait pas en Côte d'Ivoire à des violations graves des droits de l'homme, comme on a assisté au Kenya? Et malgré tout, la même chose s'est déroulée, c'est-à-dire qu'au Kenya, on a malgré tout ouvert une enquête. Est-ce que c'était réellement du ressort de la CPI? Je ne sais pas, je crois que son mandat est peut-être plus large, c'est-à-dire qu'il, si on s'attache à son statut, la Cour est là pour ne pas permettre de consolider la mosaïque des peuples. Bon, c'est ce qu'on a dans le préambule du statut. Est-ce que ces affaires-là sont réellement de son ressort, ou est-ce qu'il n'y avait pas d'autres priorités pour la Cour d'enquêter? Je pose la question.
Sarah Dezalet, vous avez une opinion sur cette utilisation du terme crime contre l'humanité? Est-ce que la CPI s'en saisit à mauvais escient?
On pourrait dire, hein, par rapport à ce qui a été dit par Stéphanie Maupas et Juan Branco à l'instant, que étant donné les contraintes dans lesquelles la Cour opère, elle est plutôt dans une stratégie de survie que de vie régulière, si on peut dire. Mais au-delà, elle s'appuie tout de même sur un mandat qui, par définition, est contradictoire. Il y a un débat sans fin parmi les spécialistes sur les rapports entre justice et paix, surtout depuis la création de la CPI, car elle opère une justice en temps réel, plutôt qu'après les faits ou après la fin de conflits donnés. Au début, dans ce débat, dans les années 80, hein, il s'agissait de savoir s'il fallait commencer par la paix ou plutôt par la justice, dans le cadre des transitions politiques. Mais pour la CPI, on lui projette un rôle qui est amené à faire les deux, à la fois à donner une vérité et à donner une vérité judiciaire sur des affaires qui, par définition, doivent concerner des individus en tant qu'accusés, mais dans des procédures où il y a plusieurs formes de victimes. Donc il a toujours un accusé, mais plusieurs formes de représentation de victimes. Il y a donc forcément plusieurs vérités judiciaires qui émergent et qui sont parfois contradictoires. Mais la vérité judiciaire, ça n'est pas la vérité politique, et ça ne peut pas l'être. Et c'est bien la contradiction majeure de la CPI. Le tribunal de Nuremberg, par exemple, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, était dans une position beaucoup plus forte. Il y avait des centaines de kilos de preuves écrites sur les crimes de l'Allemagne nazie. Il était donc en mesure d'écrire l'histoire telle qu'elle devait s'écrire pour le futur. Ça n'est pas le cas de la CPI, car elle n'en a pas les moyens. On ne lui en donne pas les moyens, et on devrait plutôt s'interroger sur la question de savoir si, effectivement, elle doit jouer ce rôle d'écrire l'histoire politique de situations données, sachant que les victimes des uns sont forcément et toujours les bourreaux des autres.
Juan Branco, en Centrafrique, la Cour pénale spéciale qui est chargée de juger les crimes les plus graves commis dans le pays depuis 2003 est opérationnelle depuis un mois. C'est un tribunal mixte composé de juges nationaux et internationaux. Pourtant, il y a tout juste une semaine, Bangui a transféré à La Haye le député ex-chef de milice anti-Balaka Alfred Yegatom. Pourquoi est-ce que celui qu'on surnomme Rambo n'a pas été jugé dans son pays par la CPS?
Oui, alors moi j'ai un petit historique avec la CPS particulier, c'est-à-dire que j'avais été recruté en mai comme expert indépendant pour élaborer la politique de poursuite du procureur spécial qui a été nommé.
Vous avez été recruté par la MINUSCA.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que j'ai été recruté par la MINUSCA, donc les casques bleus de l'ONU au Centrafrique, pour, avec deux autres experts, faire la politique des poursuites en son nom. C'est-à-dire, c'est pas les Centrafricains qui le font, déjà, pour commencer, c'est des experts internationaux qui sont payés une fortune pour faire ça, ce qui en soi déjà une position un peu particulière. Or, j'ai dû partir au bout d'une semaine parce que j'avais dénoncé un massacre qui était commis par la MINUSCA, parce qu'en effet, la MINUSCA aussi, comme elle est le principal acteur au conflit, en fait, et les casques bleus sont évidemment une mission qui est noble, mais qui souvent est défaillante, et au Centrafrique particulièrement, où il y a le plus grand nombre de violations de droits humains commis par une mission de maintien de la paix de l'histoire des missions de maintien de la paix. Et donc, en fait, la CPS n'a pas du tout l'autonomie suffisante pour poursuivre un certain nombre de crimes, parce qu'elle est sous la coupe, en fait, de la MINUSCA, qui la finance et qui lui donne les moyens d'action et donc qui en limite le champ d'action. Et par ailleurs, on est face à l'inertie que provoquent les institutions internationales et donc en fait on a récupéré le pire de la justice internationale au sein de cette justice mixte qui justement elle est censée accélérer les procédures. Et en fait, on se rend compte qu'elle s'est bureaucratisée à une vitesse assez incroyable. Et cette institution qui, quand même, était censée être opérationnelle depuis plus d'un an, est incapable de se mettre en mouvement. Et quand elle va se mettre en mouvement, elle va le faire de façon très biaisée. Donc, à partir de là, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions d'autant plus qu'en fait, en effet, la personne qui était envoyée à la Cour pénale internationale aujourd'hui n'a rien à y faire. C'est-à-dire, elle n'a pas du tout commis les crimes qui, normalement, la Cour pénale internationale est censée juger et poursuivre les crimes les plus graves qui touchent à la sensibilité humaine. Or, là, on se retrouve avec vraiment des seconds couteaux, des miliciens qui ont été pris à un moment dans des mouvements d'histoire, qui les ont parfois provoqués et qui ont en effet commis des actes qui sont inacceptables, mais qui n'ont pas du tout de l'importance suffisante pour être jugés à la haie et pour justifier ce déploiement de moyens. Donc là, on est dans une sorte d'agitation où chacun essaie de jouer sa partition et d'instrumentaliser l'autre pour montrer une forme d'activité qui n'est pas du tout sérieuse. C'est-à-dire, il y a des vrais enjeux au Centrafrique en termes de criminalité et qui remontent très haut en termes de hiérarchie. On a des chefs d'État qui sont impliqués directement dans l'instabilité, dans les violences qui existent. Et là, on s'amuse à envoyer un guignol qui a sorti son pistolet lors d'une séance de l'Assemblée nationale dont on a besoin de se débarrasser parce qu'on n'est même pas capable d'avoir une prison fonctionnelle à Bangui. Ça pose question.
Sarah Dezalet, est-ce que la décision de la CPI d'enquêter sur de possibles crimes de guerre commis par les forces américaines en Afghanistan depuis 2001 va être un test dans la mesure où on verra si elle résiste aux menaces de John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump?
J'évoquais tout à l'heure le fait que la CPI ne constitue qu'un reflet partiel du marché symbolique pour la justice internationale, un marché qui est fortement inégal et fragmenté. Ce qui est intéressant de voir, c'est tout ce qui se joue en ce moment, précisément autour des questions de crimes qui, a priori, semblent échapper à la juridiction de la Cour. Donc vous avez mentionné l'Afghanistan, mais il y a aussi la Syrie. Et il y a énormément de procédures qui commencent à être lancées, je pense aux poursuites, qui viennent d'être lancées en France contre des dignitaires syriens, mais aussi en Allemagne et dans d'autres pays. Le fait que ce ne soit pas la CPI qui se charge de ces affaires ne veut pas dire qu'il y a un échec de la Cour, forcément, car ces différentes procédures montrent bien que les choses bougent dans le même sens, vers une criminalisation des actes de violence extrême d'État. Le danger, finalement, serait plutôt ailleurs, et c'est là que ça choperait à la question afghane. Ce serait soit que la Cour se mette dans une situation politiquement périlleuse, en jouant à qui tout double sur l'affaire afghane, ou ce serait qu'on mette, encore une fois, trop d'espoir dans cette Cour pour amener une vérité sur l'Afghanistan, la Syrie, etc. Il y a eu deux développements intéressants. Le premier, c'est de voir comment va se jouer la mise en œuvre ou non du crime d'agression qui vient d'être adopté dans le statut de Rome récemment, qui n'a pas été accepté par la France, le Royaume-Uni et évidemment pas par les États-Unis, qui de toute façon ne sont pas signataires du statut de Rome. Mais le crime d'agression permettrait au final, dans le futur, de pouvoir invoquer la responsabilité de dirigeants politiques du simple fait d'avoir lancé des guerres sans en être autorisé par le droit international. Donc reste à voir ce que ça va donner. Le deuxième développement qui paraît intéressant à regarder, mais qui se raccroche à cette vision racialisée qu'on peut avoir des rapports entre l'Afrique et la CPI, c'est l'argument selon lequel il n'y a pas d'alternative sur le continent africain à la justice pénale internationale. Or, il y a un protocole qui est en train d'être négocié.
Le protocole de Malabo ?
Oui, le protocole de Malabo, voilà, qui risque de ne pas être appliqué dans un avenir proche, mais imaginez qu'il le soit, effectivement. C'est un protocole qui donc donnerait compétence à la Cour africaine de justice et des droits de l'homme de l'Union africaine, qui lui donnerait compétence non seulement pour les crimes contre l'humanité, mais également pour les crimes économiques de multinationales qui pourraient être accusées d'un dépeçage du continent. Si ce protocole arrivait à être mis en place, ce serait donc une catastrophe tout à fait bienvenue pour les multinationales du Nord. Donc là, il faudrait voir ailleurs, et effectivement dans les résistances aussi bien régionales, mais ayant trait aussi à l'économie politique mondiale, qui font qu'il n'y a pas d'alternative sur le continent africain.
Je reviens au dossier afghan. Juan Branco, si les juges de la CPI cèdent aux menaces américaines, c'est la fin annoncée de la Cour ?
Moi, je pense que sur cette affaire, en fait, les menaces sont surtout une affaire de politique intérieure pour les États-Unis, c'est-à-dire qu'il fallait démontrer que la souveraineté américaine était protégée, enfin, l'administration Trump ressentait ce besoin. Soit ils sont très mal informés, ce qui me semble peu probable, soit c'est une mise en scène, parce que ces procédures qui vont viser principalement les talibans, et non pas les forces américaines, menacent très peu les États-Unis, y compris symboliquement. Ces procédures s'appuient sur un dossier que je vois déposé sur le bureau du procureur en août 2010. Et je peux vous assurer que les différences entre le dossier qui est déposé en août 2010 et le dossier qui est déposé auprès des juges pour justifier l'ouverture de l'enquête il y a bientôt un an sont infimes. C'est-à-dire que l'effet d'autocensure est déjà beaucoup, beaucoup plus important que l'effet que peuvent avoir des menaces extérieures qui, en fait, ont déjà été anticipées et intégrées par l'institution de façon à ce qu'elles s'auto-désactivent et s'empêchent d'agir sur ce territoire. Et encore une fois, la priorité, même si ce n'est pas public aujourd'hui pour la Cour internationale, ce qui montre quand même son incapacité à comprendre le sentiment des populations qu'elle dit représenter, etc., c'est quand même de s'attaquer aux crimes des talibans. C'est-à-dire que, judiciairement parlant, c'est ça la priorité aujourd'hui institutionnelle de la Cour. Ça pose gravement question parce que ça va à l'encontre de l'idée, encore une fois, que l'on se fait d'une justice internationale impartiale qui est censée s'attaquer d'abord aux crimes des puissants, c'est-à-dire d'abord aux crimes commis par les États-Unis, ce qui ne veut pas dire que les talibans n'ont pas commis de crimes, pas du tout, c'est pas le sujet, mais c'est-à-dire que c'est quand même une indication de la faiblesse très très forte de la Cour, et à partir de là, moi je pense que il faut quand même un moment se dire, est-ce que l'on continue à croire en une institution qui est à ce point, encore une fois, auto-compromise ?
Stéphanie Maupa, c'est un test, le dossier afghan pour la CPI ?
Oui, effectivement, c'est un test. Alors après, il y a une procédure d'élection qui débute pour le futur procureur. Donc est-ce que le futur procureur suivra la même politique, cette politique qui effectivement met en priorité la question des talibans ? On verra. Pour l'instant, je reste optimiste. J'attends de voir. Le fait que ce dossier ait enfin été déposé, parce que l'examen préliminaire a été quand même ouvert en 2007. Donc le fait que ce dossier ait enfin été déposé sur le bureau des juges pour autorisation d'enquêter est déjà en soi, je trouve, une bonne nouvelle. Et donc voilà, donc oui, c'est un test. Enfin, je vois pas comment les juges peuvent refuser cette autorisation d'enquêter. Maintenant, ensuite, on parlera des choses sérieuses, c'est-à-dire qu'il faudra que l'enquête soit conduite sérieusement, parce que les menaces sont quand même lourdes, et que les ennemis de la Cour deviennent de plus en plus puissants. Donc ça sera compliqué pour la Cour.
Parce que les États-Unis ont dit qu'ils interdiraient aux enquêteurs de la CPI de venir en Afghanistan.
Oui, oui, et effectivement, ça sera forcément une enquête difficile. Maintenant, sur la question de l'implication des forces américaines et la question des prisons secrètes, il y a quand même énormément de documents donc qui peuvent devenir des pièces à conviction demain. Moi, j'ai le sentiment que le dossier, ce dossier américain, le volet américain du dossier afghan ne devrait pas prendre beaucoup, beaucoup de temps au procureur s'il y a une réelle volonté de faire ce dossier. Donc, c'est pas un dossier impossible. Contrairement à ce qu'on peut entendre, et oui, il y aura des pressions sur la Cour, mais enfin, depuis qu'elle est née, on sait qu'il y aura des pressions sur la Cour. Donc si aujourd'hui on estime qu'on n'est pas capable d'affronter ces pressions ou qu'on doit rendre une justice au rabais parce qu'il y a des pressions, à ce moment-là, peut-être que la Cour ne devrait pas exister.
Merci à tous les trois d'avoir été nos invités. Stéphanie Maupa, vous avez publié Le Joker des puissants, le grand roman de la Cour pénale internationale aux éditions Don Quichotte en 2016. Juan Branco, on vous doit L'ordre et le monde, critique de la Cour pénale internationale aux éditions Fayard en 2016. Et Sarah Dezalet, vous avez publié L'Afrique contre la Cour pénale internationale dans Politique africaine aux éditions Cartala en 2017. Merci à Nathalie Laporte qui a réalisé cette émission et à Véronique Durand qui m'a aidé à la préparer. Bonne